À l'émission Marcher en creusant, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Retrouver la source intérieure », animée par le père Bernard Rugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
Lors de l'émission précédente, nous avons parlé du souffle et du rapport entre la vie spirituelle et le souffle. La respiration, respiration du corps, respiration du cœur, respiration spirituelle. J'ai attiré votre attention sur l'importance de cette unification de notre être profond, en prenant notre corps en compte, et en étant attentif à une qualité de respiration qui ne se situe plus simplement au-dessus de la poitrine, mais jusque dans tout le diaphragme, ce qui demande des exercices et une attention à certains moments, mais qui s'acquiert petit à petit, parce qu'en fait c'est le retour à notre respiration naturelle. Et je vous parlais aussi de l'importance du lien entre respiration et silence. Plus notre psychisme et notre corps s'apaisent, plus nous pouvons respirer en profondeur. Et inversement, plus nous respirons en profondeur, plus notre corps et nos émotions s'apaisent sur un rythme qui se ralentit, et nous pouvons entrer dans une qualité de silence. Et sans doute, le souffle est-il l'une des expériences physiologiques qui exprime le mieux le lien qui existe entre vie corporelle et affective et vie spirituelle. Les exercices sur le souffle permettent de découvrir à quel point celui-ci peut se ralentir, se creuser de façon étonnante, jusqu'à prendre une durée grandissante en apnée, dans l'attente du retour du souffle. Et puis nous découvrons qu'il y a comme une respiration de notre psychisme, une détente de notre affectivité qui débouche sur une sérénité intérieure qui est autant spirituelle que morale. Ainsi, dans cette perspective, nous pouvons, par l'accueil conscient du souffle, par la dilatation de la respiration, entrer dans un chemin spirituel. On y retrouve la racine de spiritus, souffle divin. Cela n'a rien d'automatique, mais c'est certainement un lieu qui nous permet de nous unifier. Nous en verrons les conséquences sur une prière chrétienne par la suite. Il est important de voir qu'il y a beaucoup de façons différentes de parler de la méditation, et particulièrement d'ailleurs quand on parle du souffle et de la position immobile. Ce mot peut prendre des sens différents. Nous pouvons le prendre dans le sens que lui donnent les traditions spirituelles d'Extrême-Orient, où l'accent est mis sur une démarche d'unification de la personne au plus intime d'elle-même, grâce à un retrait d'essence et une concentration de la conscience libérée de l'emprise du mental. Cette démarche, qui favorise la sérénité et la présence aux profondeurs de l'être, n'est pas incompatible avec une démarche spirituelle chrétienne. Elle doit cependant être distinguée de la méditation chrétienne, marquée par une attitude plus discursive, à partir d'un texte d'écriture par exemple, ou en revivant, relisant un événement. Nous verrons cela dans d'autres émissions. En tout cas, cette première attitude de méditation peut introduire avantageusement à la spiritualité chrétienne et à une démarche chrétienne, mais en sachant que, dans ce cas, c'est plus un travail de disposition qui a déjà valeur spirituelle, mais qui n'est pas encore de l'ordre de la relation. Sauf si vraiment, dans la façon dont je respire et dont j'accueille le souffle de Dieu, je me laisse visiter, je me laisse aimer par lui. Alors là, il y a une démarche déjà relationnelle. Un chemin spirituel peut donc être un chemin de dilatation de tout notre être, grâce à un meilleur accueil du souffle. Le lien entre le souffle et l'immobilité montre à quel point cela est important pour rentrer dans une qualité d'écoute qui est liée aussi à une qualité de silence. Nous savons que quand un morceau de musique nous plaît, nous nous arrêtons et nous écoutons, et nous nous concentrons et nous goûtons. Retrouvez le goût. Dans le psaume, on dit « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Écoutez de tout notre être. Goûtez un morceau de musique, un chant d'oiseau, le vent dans les arbres. Dans la Bible, le premier commandement commence par « Écoute Israël », le fameux « Shema Israël ». Écoute. L'attitude première du croyant, c'est l'écoute. Du moins dans une vision religieuse où notre Dieu est un Dieu de l'Alliance, qui entre en relation avec l'homme et lui parle à son cœur. Au prophète Élie, sur le mont Horeb, Dieu se révèle dans la brise légère. Il n'est pas dans la foudre, il n'est pas dans le bruit, comme pouvaient le penser nos ancêtres. Il n'est pas le soleil, il n'est pas dans l'orage, il est dans la brise légère. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à l'écoute pour l'accueillir. Quand nous arrivons à rester dans une certaine immobilité, dans une présence à soi et au souffle qui nous habite, nous pouvons vivre une sorte d'illumination intérieure, un sentiment de plénitude. Cela est donné, il ne faut pas le chercher, le rechercher pour soi, mais l'accueillir quand c'est donné. Et donc, la grande difficulté pour vivre un silence qui soit un silence plein, c'est d'entrer dans une écoute. Le silence implique un apaisement de nos idées, de notre mental, de nos émotions. Et cela demande du temps et de la patience, et une pratique régulière. Vous en faites certainement l'expérience quand vous essayez d'entrer dans le silence. À ce moment-là, il devient le point focal de toutes nos distractions. Et même les vieux moines qui ont une grande expérience de la méditation témoignent encore de cela. Lorsqu'ils disent à quel point il est difficile de rentrer dans ce silence du cœur, dans ce silence plein d'une présence. Et parfois, nous l'avons dit, dans le silence de la méditation, des émotions, des souvenirs émergent, que parfois nous ne voulons pas entendre. Et alors nous sommes tentés de remplir l'espace, avec des mots, des prières. Alors bien sûr, il y a d'autres formes de prière, nous le verrons d'ailleurs, comme le chapelet, comme la répétition du nom de Jésus, mais pouvoir rentrer dans une qualité de silence, ça reste une aventure spirituelle. Pouvons-nous faire taire notre esprit, notre moi inquiet, notre ego envahissant pour devenir accueil, disponibilité? C'est Jésus qui disait à Sainte Catherine de Sienne, d'après son témoignage, « Fais-toi capacité, je me ferai torrent. » Comment nous faire capacité d'écoute? Vide où Dieu peut créer du neuf. Si nous nous mettons dans cette écoute du cœur profond et dans ce silence et cette immobilité, c'est pour vivre une qualité d'existence et de relation, une qualité d'être. Grâce à une démaîtrise du faire, de l'avoir, du pouvoir, nous devenons plus pleinement vivants, parce que nous sommes au niveau de l'essentiel. Et c'est pourquoi on fait allusion aux sensations dans une démarche comme celle-là, parce que c'est précisément, je l'ai dit précédemment, en étant attentif aux sensations, une partie de notre activité mentale se déconnecte et nous pouvons entrer dans une autre qualité de silence. C'est le cas lorsque nous nous concentrons sur une œuvre d'art, une peinture, un morceau de musique, une sculpture, un dessin. Certains le font avec un mandala, par exemple, qui est un dessin géométrique que l'on peut retrouver dans la tradition tibétaine, par exemple. Quand nous faisons appel à nos sens de façon concentrée et intense, notre activité mentale s'apaise. Certains en font l'expérience, ceux qui pratiquent la méthode Vitose, par exemple. Nous pouvons alors être présents de tout notre être. Nous sommes alors bien dans l'instant. Parce que notre problème, c'est que souvent nous faisons plusieurs choses à la fois. Tout dans les rythmes actuels nous pousse à la dispersion. Multiplicité des bruits, des odeurs, des mouvements, accélération des activités. Tout semble se conjuguer pour rendre l'immobilité et le silence difficiles. Pourtant, il est possible de devenir plus présent à notre corps à travers le souffle qui est donné à chaque instant, pour vivre l'instant présent. Une façon bien concrète d'entrer dans le silence que j'ai apprise dans un ashram en Inde, c'est de me mettre dans une situation où, lorsqu'il y a toutes sortes de bruits autour de moi, je tâche d'être attentif à tous les bruits qui m'entourent sans me fixer sur aucun bruit. Alors vous accueillez tous les bruits, et s'il y a un bruit qui est plus fort, eh bien vous allez chercher un autre bruit qui sera moins fort, et puis ainsi d'un bruit de moteur, un pipiment d'oiseau, un bruit de vent dans les arbres, vous ne vous arrêtez à aucun bruit, mais vous les recevez tous, indistinctement. Et petit à petit, vous entrez dans un silence profond et dans le ralentissement du souffle. Nous le savons, ce qui nous empêche de nous arrêter et de nous tenir immobiles, de faire le vide, c'est que nous sommes des voyageurs avec bagages. Dans chaque main, nous portons une lourde valise. La valise de nos regrets, de nos culpabilités, des problèmes que nous n'avons pas résolus. Et la valise de nos angoisses, de nos projections vers l'avenir, de nos insécurités. Nous les emmenons partout. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à régler par rapport au passé, ni qu'il ne faut pas être prévoyant pour l'avenir, mais il y a des moments où il faut s'arrêter, déposer les valises et prendre un temps de méditation dans cette immobilité où nous sommes disponibilité. Pensons-y quand nous prenons un moment pour nous arrêter. Il faut parfois un gros effort de volonté pour chasser les distractions, mais petit à petit cela devient plus naturel et certainement que le souffle et la présence au corps nous aident à cette détente et à cette présence à nous-mêmes qui est aussi présence à celui qui nous habite. Après avoir parlé du silence, de l'écoute, de la présence, je voudrais parler d'une autre présence qui est celle à notre cœur profond. Et la plupart des grandes traditions spirituelles, qu'elles soient occidentales ou orientales, considèrent que nombreux sont ceux qui vivent en disharmonie, qui n'arrivent pas à un équilibre au niveau de leurs diverses capacités. Nous utilisons mal nos potentialités physiques, psychiques, mentales ou spirituelles. Et nous avons vu l'interaction entre ces niveaux dans la personne. Alors entendons-nous bien, l'objectif de la vie spirituelle n'est pas de faire de nous des surhommes avec un super équilibre où tout serait parfaitement intégré et toutes nos potentialités développées. Le risque, effectivement, ce serait de chercher un résultat où, une fois de plus, nous viserions à développer notre ego, des pouvoirs, des potentialités, une supériorité. Mais cela n'empêche que il nous faut voir et reconnaître que si nous voulons être fidèles à ce que les chrétiens appellent l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait homme et qui a pris toute notre nature humaine avec le corps, avec l'affectivité, avec toute notre corporéité et notre capacité spirituelle donc, eh bien, qu'il est aussi de notre responsabilité d'être attentif à ces différentes dimensions de notre être sur un chemin spirituel. Notre relation à nous-mêmes, aux autres, à notre Dieu, au cosmos, cette nature qui nous englobe et dont nous faisons partie, est parasitée par des dysfonctionnements. Santé spirituelle, santé psychologique et affective sont liées. Quand nous vivons des relations difficiles avec notre entourage ou que nous souffrons de problèmes physiques ou psychiques, nous pouvons traverser une crise spirituelle. L'ensemble de notre personne est concerné. Nous ne sommes pas cloisonnés. On ne peut pas déconnecter un domaine d'un autre. Et c'est pourquoi aujourd'hui on parle tellement d'une approche holistique de la santé et de la spiritualité. Le mot grec holistique, enfin le mot d'origine grecque, qui veut dire complet, intégral, renvoie précisément à toutes ces dimensions de la personne, à cette intégralité de notre personne. Cela touche donc aussi bien le corps que l'affectif, que l'esprit, que le domaine moral, intellectuel. Avec tout ce que nous pouvons ressentir parfois d'un point de vue moral, de sentiments d'échec, d'insuffisance, de culpabilité. Certains sont tellement dépendants de leur passé à cause d'expériences négatives, de souffrances, de mauvaises habitudes, et notre corps porte la mémoire de notre histoire. Nous sommes parfois surpris de découvrir en nous des fragilités qui pourraient menacer notre équilibre quotidien. Ce peut être la conséquence d'un mauvais usage de notre liberté, un moment de notre vie, qui fait qu'aujourd'hui nous en sommes là, parfois tout pantelant. Parfois nous portons un souvenir sur le mode de la culpabilité, alors que peut-être notre liberté n'était pas engagée dans ces événements du passé. Il peut arriver que nous nous culpabilisions de fautes qui ne dépendent pas vraiment de nous. Et c'est là que nous sommes appelés à faire la différence entre sentiment de culpabilité et conscience de culpabilité. Un sentiment de culpabilité peut être tout à fait subjectif et ne correspondre à aucune responsabilité personnelle. Par exemple, un jumeau qui survit à son jumeau et qui se sent coupable de survivre, tel enfant qui dans une famille réussit mieux que les autres. Ou bien, nous le savons, un enfant battu se dit que s'il est battu, c'est qu'il est coupable. Et donc on peut sortir de la vie de l'enfance, avec un profond sentiment de culpabilité, alors qu'en fait, eh bien, notre responsabilité n'y est pas du tout impliquée. Donc il y a des sentiments de culpabilité qui sont mortifères, qui apportent la mort, qui vont contre la vie. Mais il y a la conscience de culpabilité, qui est cette conscience morale de reconnaître qu'à certains moments, eh bien oui, c'est moi qui ai mal agi. C'est moi qui ai posé cet acte consciemment. Et il faut que j'assume les conséquences. Je dirais, le sentiment de culpabilité me replie sur moi-même. La conscience de culpabilité me rend responsable et m'aide à assumer les conséquences de mes actes. Alors on a tellement voulu éliminer l'aspect morbide de la culpabilisation par rapport à tout un discours sur le péché qu'on risque de déresponsabiliser. Il ne s'agit pas de culpabiliser, mais de se responsabiliser. Alors que lorsque nous sommes engagés sur un chemin spirituel, eh bien, parfois, ce sont des culpabilités que nous traînons derrière nous, qui nous empêchent d'avancer avec un peu plus de sérénité, un peu plus de disponibilité, et d'accueillir la grâce qui est toujours donnée. Donc la démarche qui est proposée ici, c'est une démarche qui est aussi de l'ordre de la réconciliation avec nous-mêmes, avec nos blessures, notre passé, notre péché, avec les autres, avec Dieu. C'est un long chemin de réconciliation, de transfiguration, de métamorphose, retrouver une unité dans nos profondeurs. Parce que souvent, la conséquence du mal, de la blessure, c'est la division intérieure. Et là, eh bien, la méditation joue un rôle central dans cette démarche. Dans ce mouvement de la respiration, où, comme je vous l'ai déjà dit, je peux prendre sur le mouvement lui-même des mots comme dans l'expiration qui se fait 3 fois plus longue que l'inspiration, je peux dire « je me lâche, je me donne, je m'abandonne » et puis au moment de l'inspiration, « je me reçois » ou « je renais » ou « je te reçois ». Ce mouvement de la respiration avec ces paroles qui sont aussi des paroles spirituelles permet un chemin d'unification de l'être profond et de rejoindre notre cœur profond. Pour certains qui ne sont pas habitués à respirer amplement, il est très difficile de dire « je me lâche, je me donne, je m'abandonne, c'est trop long ». Vous prenez une seule expression, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que vous puissiez trouver des mots qui, sur le mouvement de votre souffle, vous aident à en faire un chemin d'abandon et d'accueil. Nous avons déjà dit qu'une des caractéristiques de notre époque contemporaine en Occident, c'est qu'on a mis énormément l'accent sur l'intelligence et sur la raison. Notre soif de comprendre, qui fait certainement la grandeur aussi de l'Occident, au niveau de la recherche scientifique, de résultats de la période des Lumières, comme on dit, ces philosophes qui ont voulu promouvoir la raison et la responsabilité du sujet, a certainement eu des fruits très importants et très positifs. C'est certainement source de grandeur pour l'homme que de soumettre la nature. Déjà d'ailleurs, au moment de la création, Dieu demande à Adam de donner un nom. Et nous savons que la création s'est faite en distinguant les différents éléments, en sortant de la fusion et de la confusion. Donc il y a certainement un grand progrès dans ce travail de la raison. Le fait de pouvoir mesurer, le fait de pouvoir expérimenter, de pouvoir en tirer des conséquences pour la vie de l'homme, pour la maîtrise de la nature. Il n'y a pas de doute que tout cela, c'est un grand progrès. Mais le danger, c'est de penser que tout ce qui est réel est quantifiable. Tout ce qui est réel est mesurable. Et donc tout ce que l'on ne peut pas mesurer et quantifier et contrôler et expérimenter concrètement n'existe pas. Et là, c'est évidemment un excès de la recherche et de la réflexion rationnelle. Parce qu'à ce moment-là, nous nions et nous ignorons ce qui est de l'ordre de l'invisible. Cela peut aller très loin, se contenter simplement de la mesure. En effet, il est arrivé combien de fois que des malades voient que le diagnostic a été fixé, sans même que le médecin l'ait rencontré ni touché, parce qu'on a lu le protocole des analyses. Et parfois on découvre qu'il y a eu un mélange d'ailleurs dans les résultats. On ne peut pas réduire une personne à ce que l'on peut en mesurer. Il y a toujours deux regards qui sont appelés à se rencontrer, une parole à s'échanger, et cela va bien au-delà du diagnostic du mesurable. De même pour le mystère de l'univers, on ne peut pas se réduire aux mesures qu'en donnent les astrophysiciens. Même si c'est fabuleux ce qu'on arrive à faire en astrophysique, et en même temps, lorsque nous regardons les galaxies, nous nous rendons compte que nous sommes si peu de choses, que nous n'avons même pas les unités de mesure pour rendre compte de l'immensité de l'univers. Il existe encore une autre forme d'intelligence qui n'est pas tout à fait celle de la rationalité pure, dont nous avons peut-être perdu le sens à certains moments dans l'histoire des sciences en Occident. C'est l'intelligence du cœur. L'intelligence des profondeurs. Vous savez, nous connaissons tous des gens qui n'ont pas eu de grands résultats scolaires, mais en définitive, nous sentons chez eux une sagesse, une profondeur, une intuition, une attention, une compréhension qui n'a pas besoin de mots parfois. Alors, il est peut-être important de revenir à l'intelligence du cœur, rejoindre le cœur de notre cœur pour découvrir cette fécondité, cette richesse d'un regard autre, le sens spirituel, comme s'il voyait l'invisible, est le titre d'un livre. Eh bien oui, je crois que ce sont les qualités de cœur qui nous rendent capables de voir l'invisible. Et pour cela, on n'a pas besoin de grands diplômes. Il faut apprendre à écouter, il faut se tourner vers l'autre, il faut rentrer dans son cœur profond, il faut se laisser visiter. Cela s'apprend, c'est un don aussi à demander.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.